travers, bien évidemment, les points de référence antiques et pour venir jusqu'à aujourd'hui. Allez, Georges, à toi.
Bon, ne pénalisons pas les présents et nous allons commencer avec 3 minutes d'avance. Oui, je n'ai pas donné de titre exact à ce petit exposé. Comment ?
Quel titre ?
Le titre pourrait être l'évolution de la pensée médicale d'Homère à Hippocrate, avec une remarque qui peut être pour ou contre Hippocrate, et l'héritage des Grecs à Marseille, ce qui me donnera l'occasion de faire un exposé en 3 parties, la première étant constituée de la pensée médicale dans les travaux d'Homère et dans les travaux pré-hippocratiques, une partie un petit peu plus longue pour envisager justement s'il faut considérer Hippocrate ou au contraire le regarder avec un peu de mépris ou tout au moins les médecins ont beaucoup de suspicions vis-à-vis de leurs confrères trop médiatiques, mais même pas de leurs confrères, ceux qui parlent de volcans, d'exploration sous-marine, etc., et qui sont considérés souvent par des gens trop médiatiques, je ne sais pas d'autres mots à proposer. Alors je suis un peu embarrassé pour vous parler d'hellénisme, car je peux uniquement me targuer de quelques années au lycée Perrier de grec, j'étais pas très très à la pointe, je pense qu'il doit y avoir ici des professeurs de grec ou des gens qui s'intéressent plus compétents que moi en hellénisme. Je leur demande de pardonner mes erreurs possibles, de compléter mes oublis et de ne pas se gêner pour m'arrêter éventuellement. Alors, cet Hippocrate, donc père de la médecine, souvent étiqueté de Hippocrate le Grand, parce qu'il y en a d'autres, a eu évidemment un rayonnement et des critiques, bien entendu, dans sa période contemporaine. Et sa célébrité est déjà évoquée par Platon dans Protagoras. Aristote également considère que c'est un grand médecin et qu'il faut le respecter. Alors, pour essayer de dégager sa pensée et son originalité, je voudrais deux mots du creuset médical dans lequel a évolué la médecine, disons, pré-hippocratique. Le creuset familial également, parce qu'il descend de médecin de père en fils, et de l'école de Cos, évidemment, de quelques mots sur l'œuvre d'Hippocrate, en terminant sur les influences qu'il a pu avoir sur la médecine marseillaise dans les premières années des 24e siècle de médecine à Marseille. Alors ce creuset médical, on le retrouve essentiellement dans Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée. Les poèmes d'Homère, comme vous le savez, ont souvent un caractère didactique, avec des connaissances anatomiques. Ils parlent d'une chirurgie simple, mais toujours rationnelle, et de thérapie, évidemment, élémentaire, avec des plantes, des racines, mais aussi des désinfectants, comme on connaît à l'époque, par exemple l'oxyde de fer et le soufre. Certains types de blessures sont tout à fait décrites de façon saisissante. En particulier dans l'Iliade, certains ont dénombré 149 à 150 types de blessures très différentes les uns les autres. L'Iliade cite d'ailleurs le dieu Péon, qui est médecin des dieux et qui soigne également le dieu Ados, qui avait été victime de flèches et qui avait été également anesthésié, ou encore de l'insolent Diomède, qui sur ordre de Zeus avait été attaqué. Alors on connaît dans l'Iliade des soldats médecins, avec deux frères, qui sont d'ailleurs deux fils d'Asclépios, dont je vais vous parler dans un instant, qui prodiguaient leurs soins à leurs compagnons d'armes, et il y avait un simple, entre guillemets, médecin, qui était en fait l'intellectuel, je ne dis pas l'intelligent, mais l'intellectuel, c'était Polaridios, et le manuel, qui était évidemment le chirurgien, Macaon, qui, le terme de Macaon venant de Macera, qui correspond au corbeau, je crois. Alors, ce simple médecin était donc, avait un regard médical qui voyait à travers le corps l'invisible et soignait des maladies incurables. Il y a à ce propos un poème épique d'Arétinos qui signale l'utilisation de diététiques et de pharmacie dans ces maladies incurables. On en est peut-être au même point actuellement. Alors, quant au manuel, le chirurgien Macaon, lui, il traitait les blessures, il soignait les plaies, il retirait les corps étrangers des membres atteints, et il suçait le sang. Et c'est ce qui est arrivé, par exemple, à Ménélas blessé, qu'on rapporte dans l'Iliade. Le savoir-faire des médecins était reconnu, et Homère dit « le médecin vaut à lui seul plusieurs hommes, étant donné ses connaissances et ses capacités ». Mais, en même temps, c'est notamment le simple et le manuel étaient des combattants, et alors devenaient indisponibles, l'un parce qu'il était blessé, l'autre parce qu'il était en pleine mêlée, etc. Cependant, Homère, semble-t-il, reste silencieux sur le traitement des maladies, parce que, à cette époque, le traitement des maladies relevait des dieux et non pas des hommes, et cela va influencer la suite des événements. Souvenons-nous d'ailleurs que Polaridios et Macaon descendaient d'Asclépios. De toute façon, c'est à ce moment-là que deux tendances dans la pensée médicale grecque vont évoluer parallèlement pour faire place à la seconde par la suite. La première étant la médecine sacrée, donc dans le culte d'Asclépios, on l'appelle quelquefois sacerdotale, qui est la médecine des prêtres et des philosophes dans les temples, qui sont alimentés par des superstitions et même des recettes, ce qui aboutit évidemment au charlatanisme et même à la sorcellerie. Au contraire, apparaît petit à petit la médecine profane, la médecine laïque, qui utilise des amulettes ou des bistouris, qui sont cependant tous les deux, ces deux médecines sont réunies dans le culte d'Asclépios. Pardon. Alors, quelques mots sur Asclépios, donc le dieu de la médecine qui deviendra Esculape, c'est plus facile à prononcer, chez les Romains, fils d'Apollon, qu'il fait instruire par un centaure, le centaure Chiron, et c'est là qu'il avait appris la médecine et qu'il transmettait Chiron avait appris la médecine et avait transmis son savoir à Asclépios. Selon Pindare, non seulement Asclépios guérit de nombreux patients, mais, hélas, je dois dire, il tente de ressusciter un homme et il y arrive, et Zeus, furieux de cette influence, le foudroie. Et on peut se souvenir que les dieux sont jaloux, comme le disait Kazantzakis, le poète grec, qui disait « les dieux sont jaloux ». Et il faut faire très attention quand on est heureux. Et à titre anecdotique, je vous rappelle son histoire, quand il avait découvert Florence, il était tellement heureux qu'il se promenait dans l'après-midi à la découverte de Florence et il achetait des souliers trop petits pour mettre le matin, pour souffrir et passer devant les dieux sans ennui. L'histoire ne dit pas ce qui s'est passé. Mais Asclépios va donner suite à une longue lignée aristocratique, héréditaire, masculine, de père en fils, et Hippocrate sera le 19e descendant selon Ératosthène. Ainsi va se développer une médecine d'inspiration religieuse, Ce que peut la science n'égale pas le pouvoir des dieux. Il faut toujours prier et supplier les dieux. Et évidemment, il y a une grande influence à cette époque d'Asclépios. On élève des temples dans toute la Grèce. À Athènes, on bâtit l'Asclépion sur le versant sud de l'Acropole, un sanctuaire à Épidaure, et des temples. Alors ces temples se constituent traditionnellement en trois parties. Une source sacrée où on purifie les patients, un portique qui abrique les malades, et un naos avec une statue de Dieu et de sa fille Hygieia, déesse de la santé évidemment. Le prêtre avait néanmoins quelques connaissances médicales inscrites dans les archives médicales des temples d'Asclépios, dans lesquelles d'ailleurs Hippocrate puisera. Alors les malades de l'époque, eh bien, il y a des malades bénins et des maladies sévères. Alors les malades bénins, eh bien, on les traite avec des prières, des sacrifices, des offrandes, voire avec des thérapeutiques moins spirituelles comme la diététique ou l'hydrothérapie. Quant aux maladies sévères, eh bien, il s'agit de traiter la période d'incubation. Et à la tombée de la nuit, on procède à des ablutions nocturnes, des civières qui sont portées autour de la statue du dieu, pendant le sommeil, connaître aux patients les moyens de guérir, et certains rites du prêtre qui ordonnent des bains, des potions de miel, au maximum de la chirurgie. Tout cela avec une inspiration religieuse. Les médecins le cédant au dieu, car tout ce que peut leur science n'égale pas le pouvoir des dieux. Il faut prier et supplier les dieux. On a pu dire cette opposition entre la bistouri et les amulettes, ayant évidemment aboutissant quelquefois un risque de charlatanisme et même de sorcellerie. Alors de nombreux ex-voto de reconnaissance sont présentés dans les sanctuaires, par exemple la guérison du ténia. Je me demande comment pouvait être la reconnaissance vis-à-vis du traitement de ce petit animal qui est mal passé. Les pertes de la vue également, et on cite en particulier ce qui pourrait être des dérives, en particulier le cas d'Hermion. Alors Hermion, qui avait perdu la vue, recouvre la vue, mais il ne paie pas le prêtre. Alors il y a une rechute, et il paie et il guérit, dit-on. Alors c'est évidemment une dérive regrettable, mais c'est signalé par Homère. Alors donc apparaît à ce moment-là une sorte d'intrication entre la médecine sacrée, sacerdotale, et la médecine laïque, qui s'oppose, mais qui parfois se complète. Une laïcisation scientifique se dessine grâce aux philosophes médecins qui font un effort de compréhension indépendant des dieux et qui évoquent également la parole qui guérit. Alors, quelques mots maintenant sur les grandes écoles pré-hippocratiques. Eh bien, cette évolution ultérieure de la pensée grecque va se faire avec des hauts et des bas. Je citerai d'abord Léo, c'est l'école de Crotone en Calabre, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a été fondée par Alcméon, médecin et philosophe, disciple, lui, d'Aristote et de Pythagore de Crotone. Auteur d'un traité de la nature, c'est le premier à avoir fait des dissections d'animaux, bien entendu. Il reconnaît certains éléments du cœur, le vertical, le ventricule gauche, les artères, les veines, et même il voit la physiologie de ces formations. Il s'aperçoit que les artères sont actives, les veines sont passives, et qu'il y a un rapport pour les veines avec la respiration. Il distingue deux éléments bien séparés, la sensation qui appartient aux êtres vivants et la pensée qui est le propre de l'homme. Et une découverte importante, la pensée, dit-il, siège dans le cerveau. Il fait d'ailleurs dans cette école de Crotone d'étonnantes découvertes qui ont été un peu oubliées par l'histoire, en particulier dans la vision, grâce aux autopsies, aux nécropsies, on s'aperçoit que la vision passe par ce qu'on appelle le chiasma optique, c'est ce qui passe de l'œil droit, grosso modo, de l'œil droit au cerveau gauche et vice-versa, de l'œil gauche au cerveau droit. Et ce chiasma optique, donc constituant de l'œil, va permettre la perception lumineuse, qui est comme selon l'expression d'Alcméon, une parcelle de feu dans la rétine, modifiée par une image brillante ou obscure. Dans l'audition, pareil, captation des ondes sonores dans l'air et transmission au cerveau, également dans le goût et l'olfaction.
Dans le cadre de la semaine du cerveau, le département sciences techniques vous propose la conférence « Dessine-moi un cerveau » par le neurobiologiste François Clarac, à 18h, en fin de conférence. Merci.
Et apparaissent à ce moment-là la notion de particules odorantes, qui est d'ailleurs toujours à la mode et toujours à l'étude, puisque vous savez que le goût et l'odorat sont très liés, et qu'il existe une cinquième saveur d'ailleurs, qui dépend un peu de l'olfaction et qui est perçue en particulier par l'arrière-nez. Enfin, quoi qu'il en soit, ce que l'on peut dire, c'est qu'on pourrait rendre hommage à Alcméon, puisqu'il a une saisissante conception du cerveau. On aurait pu l'expliquer en bas. En effet, le cerveau, dit-il, est le siège de la vie psychique et intellectuelle. Il reçoit les sensations et il transmet le mouvement. C'est donc une avancée étonnante. Alors, les bas sont nombreux à côté des hauts, en particulier dans l'école de Sicile, qui a été fondée à Agrigente en 490 par Empédocle, qui était d'ailleurs, Empédocle était très excentrique, et il avait fini par se jeter dans l'Etna lors d'une crise de désespoir, et il vaut mieux au fond parce qu'il avait des conceptions fausses, en disant que en affirmant que le siège de la conscience était dans le cœur et non pas dans le cerveau. Alors oublions Empédocle. Diogène d'Apollonie en Crète avait insisté beaucoup sur le rôle des mouvements de l'air, mouvements infinis, qui donneraient naissance à tous les phénomènes pathologiques. Mais enfin, c'est très confus. Le seul intérêt de Diogène d'Apollonie, c'est qu'il avait fait des découvertes anatomiques sur le système veineux et les avait décrites de plus ou moins bien. Deux écoles rivales étaient alors des écoles anatomiques qui s'étaient livrées à des dissections, celle d'Hérophile et celle d'Érasistrate. Hérophile, en Asie mineure, avait pu décrire avec assez de détails les méninges qui, comme vous savez, entourent le cerveau, et en particulier ce qu'on appelle toujours le pressoir d'Hérophile, qui est une formation dans la zone postérieure du cerveau, qu'on appelle quelquefois le torcula. Quant à Érasistrate, alors, en Asie mineure aussi, il avait bien étudié, alors lui, les nerfs moteurs et les nerfs sensitifs, et avait compris à peu près leur rôle. Enfin, une école rivale de celle qui va être l'école d'Hippocrate, va être l'école de Cnide, qui Cnide est en face de Kos, en Asie mineure. On y reviendra, et cette école rivale déclenchera souvent des colères de la part d'Hippocrate. Alors, le creuset familial d'Hippocrate et sa vie médicale, on la connaît grâce à une biographie totalement anonyme qui a été attribuée à Soranès, je crois, donc je ne peux pas vous dire plus. Hippocrate, donc, on s'accorde pour l'accepter, naît donc à l'île dorienne de Kos, 460 avant Jésus-Christ. Il faut dire qu'il a une très riche ascendance médicale, dont je vous ai déjà dit un petit mot. Dans l'illustre famille des Asclépiades, aristocratiques, qui prétendaient descendre du dieu Asclépios, avec essentiellement, je vous l'ai dit, une descendance mâle et une médecine héréditaire, d'abord à fonction sacerdotale. Ératosthène disait qu'Hippocrate était donc le 19e descendant d'Asclépios, Esculape, et aussi d'Héraclès. Alors, Asclépios fait suite une très longue lignée de médecins, de père en fils, qu'il serait abusif d'énumérer, simplement Nébrus, qui était célèbre 600 ans avant Jésus-Christ, Chrysos, Hippocrate l'Ancien, le grand-père d'Hippocrate, qui était d'ailleurs anatomiste, le père, Héraclide, qui avait commencé à s'intéresser à la diététique, Hippocrate, et puis deux fils d'Hippocrate, qui étaient Thessalos et Draco, et également son gendre Polybe, qui seront ses élèves, et les fils de Thessalos et de Draco, donc les petits-fils d'Hippocrate, vont être prénommés également Hippocrate, ce qui va créer une certaine confusion dans les années qui suivent. Quoi qu'il en soit, Hippocrate va se former. Des études médicales qui ont donc commencé par une médecine sacerdotale sous la direction de son père Héraclide avec une sorte de compagnonnage habituel en médecine, c'est-à-dire rien d'écrit, une transmission des connaissances de façon dans un enseignement verbal. Et il avait quand même complété sa formation de médecin laïque en suivant divers médecins, et en particulier Gorgias, qui était disciple d'Empédocle de Sicile, à l'origine d'ailleurs de certains errements dont je vous ai dit un mot. Puis, Hippocrate avait exercé la médecine. Il allait de ville en ville comme praticien ambulant, périodonte, et avait fait de nombreux voyages pour son époque, en Thessalie, en Thrace, en mer Noire, en Asie mineure, en Macédoine, où on raconte qu'il avait guéri le roi Perdiccas d'une fausse phtisie, parce qu'Hippocrate avait décelé qu'il s'agissait en fait d'une simple maladie sentimentale où il était déprimé pour des raisons d'ennui amoureux. Et effectivement, Hippocrate écrivait « Il faut parcourir les villes pour être médecin de fait ». Il était au fond un précurseur, un grand précurseur de ce que maintenant on appelle des stages à l'étranger qui sont courants pour les jeunes carrières, dans les jeunes carrières hospitalières. Cependant, il restait un ardent patriote, philhellène et désintéressé. Il avait refusé l'offre d'or et d'argent des princes barbares pour traiter la peste qui venait du nord. Il refusait les présents d'Artaxerxès en particulier, roi de Perse, qui voulait l'attirer à sa cour en le faisant mander par Istan, gouverneur de l'Hellespont. Il avait totalement refusé. Et puis surtout, il va être le premier à l'origine de la révolution concernant la médecine antique. Il a été le premier à avoir rejeté les forces naturelles ou surnaturelles ou divines comme cause de la maladie, en disant que toutes ces superstitions et ces croyances étaient à rejeter et ne correspondaient pas à quelque chose de véritablement scientifique. Et il a séparé la médecine des autres disciplines de la connaissance, comme la théologie, la philosophie, et a donné une individualité à la médecine. Par exemple, sur la maladie sacrée, c'est-à-dire la fameuse épilepsie, eh bien, il rejetait l'origine divine, ni sacrée d'ailleurs. La maladie n'est pas une punition infligée par les dieux, mais elle dépend de facteurs divers, environnementaux, dont on parle beaucoup maintenant, alimentaires également, ou d'habitudes de vie, etc., etc. Il n'y a pas, affirmait-il, de maladie mystique, mais là, il s'engageait sur les maladies des humeurs, qui sont une théorie un peu, effectivement, erronée. D'ailleurs, comme Cnide, il n'aboutissait pas à des diagnostics vraiment formels. mais plutôt à des diagnostics généraux qui va aller appeler des soins palliatifs ou symptomatiques, et surtout insister sur le pronostic. Alors, c'est ainsi que se fonda l'école de médecine hippocratique, c'est-à-dire la médecine, l'école de Kos, vers les années 420 avant Jésus-Christ, dans une île du Dodécanèse. L'enseignement était élémentaire, mais théorique et pratique, de bonne facture, avec des leçons d'anatomie, de pathologie, sur le traitement, sur la nosologie des maladies, et diverses études pratiques de clinique, de chirurgie, de pharmacie, avec des disciples qui étaient venus de toute la Grèce, comme en témoigne Platon. Ses disciples suivent son enseignement. Toutes les maladies ont une cause naturelle, donc la pensée est rationnelle. On se sépare des tabous sacerdotaux. On observe directement des faits concrets et on raisonne de façon scientifique pour l'époque. On apprend en particulier à Thucydide l'objectivité, laisser l'interprétation au lecteur, comme le dirait Umberto Eck dans son ouvrage « Lector in fabula ». Donc, ne pas se satisfaire d'hypothèses séduisantes, mais trop simplistes. Tout cela lui vaut de grands honneurs, d'autant qu'il évite la guerre contre les Athéniens. Il est initié au mystère d'Éleusis pendant les Panathénées. Il reçoit une couronne d'or au théâtre de Dionysos à Athènes. Seul Héraclès, jusqu'à présent, en avait été précédemment jugé digne. Il devient donc une célébrité historique de Kos, encore que l'histoire de Kos et la visite touristique de Kos est un peu légendaire. Le platane, Plateia Platanon, sous lequel il enseignait, n'a pas plus de 100 siècles, dit-on. Sa statue au musée le montre chevelu alors qu'il était entièrement chauve. La ville de Kos actuelle regarde la Turquie alors que celle d'Hippocrate était à l'autre extrémité de l'île, donc l'aspect historique est quelquefois douteux. Je dois dire que dans sa vieillesse, Hippocrate abandonnait Kos à Polybe, son gendre, qui était un excellent médecin, et il va à Larissa, en Thessalie, attiré par les grandes familles aristocratiques, Asclepiades, Asclepiad, des prétendants descendre d'Héraclès. Il soigne Démocrite, le matérialiste, dont il traite la folie, et surtout, il se rencontre avec Thucydide, qui possède des mines d'or, mais surtout a une grande influence sur Thucydide, historien à la même époque, et il lui communique la rigueur scientifique, souci de l'observation rigoureuse et impartiale, et Thucydide se pique alors d'objectivité, il laisse parler les faits par ordre chronologique, sans intervention personnelle, et laisse au lecteur la conclusion. Le récit de la peste à Athènes est également intéressant, puisque Hippocrate a l'idée de guérir les Athéniens de la peste en brûlant des grands feux et qui diminue sa gravité et son évolution, sa propagation. Hippocrate meurt environ en 370, à 80 ou 104 ans, dit-on, à Larissa. On connaît un tombeau d'Hippocrate entre Larissa et Gyrton, et ceci est un grand centre de pèlerinage. Le miel des abeilles qui ont colonisé sa tombe guérissait les aphtes. Alors l'œuvre et le concept hippocratique me fait entrer dans des notion un peu aride, mais enfin je vais les résumer rapidement. Le corpus hippocratique est une véritable encyclopédie considérable de 49 ou 50 traités écrits en ionique, très disparates. dans les chapitres, dans les notes, dans les aides mémoires, dans les conférences véritables. Et on doit dire que tous les éléments de ces traités, ne sont pas tous Hippocrate. On dit que ses fils, Thélasos et Gracchos, et son gendre Polybe, y ont contribué, et qu'il y a au fond peut-être une vingtaine d'auteurs qui ont contribué à ce corpus hippocratique. Littré, le littré du dictionnaire, avait fait une étude monumentale vers 1850 sur Hippocrate, et cette étude était traduite du dialecte ionique dans des langues de la science et de la philosophie. De nombreuses études par la suite ont concerné en fait ce qui n'était pas véritablement directement Hippocrate, et il existe dans ces corpus, si vous voulez, une énumération fastidieuse que je vous épargne, mais quand même une remarquable présentation de la déontologie, de l'anatomie, de la diététique, du traitement médical, du traitement chirurgical, et une grande nouveauté qu'on doit à Hippocrate, c'est-à-dire d'associer le raisonnement scientifique, la modestie que doit toujours avoir un médecin devant la complexité des faits, quelle que soit l'époque, des hypothèses, et l'homme et son milieu, idée hippocratique de l'environnement qui est important. Alors, je survole simplement quelques réalités, erreurs et contradictions, du point de vue anatomique et physiologique. L'anatomie osseuse du crâne est bien décrite avec ce qu'on appelle le diploé entre deux lames osseuses, de la colonne vertébrale également. Le cœur est très bien décrit avec une ambiguïté parce que, avec l'influence de la Sicile, on n'ose pas toujours dire qu'il n'est pas le siège de la pensée, mais ça n'est pas quand même l'idée d'Hippocrate. Les poumons, la trachée artère, terme conservé, l'air va dans les poumons puis dans les artères. Le système nerveux siège donc de la pensée, de la sensation, du plaisir, de la douleur, des passions, de l'inclination. C'est par lui que nous pensons et il détient la majeure partie de la puissance vitale. Toutes les affections de l'âme proviennent du cerveau, rêves, cauchemars, folies, etc., etc. Et tout cela, alors là c'est un peu délicat, provient d'un excès d'humidité avec la théorie des humeurs propre à Hippocrate, le sang, le flegme, la bile noire, la bile jaune, qui est, dans un sens, peut-on dire, précurseur de ce qu'on appelle maintenant les neurotransmetteurs, mais enfin, cette théorie des humeurs et des éléments doit être quand même assez critiquée. Les maladies, dit-il, sont les conséquences d'un déséquilibre interne. Lorsqu'on est en bonne santé, les fluides sont en concentration égale, paraît évident. Dans les dysphasies, les maladies, il y a des mauvais mélanges, par exemple, le phlegme, c'est-à-dire la lymphe, donne des troubles pulmonaires, on crache ce phlegme maladie, de même pour la bile jaune ou la bile noire, et on a quelques thérapeutiques, comme le citron contre le phlegme, la saignée. Et puis, l'évolution de la maladie, selon Hippocrate, évolue en trois phases. Dégénérescence des humeurs, la coction, c'est-à-dire la cuisson par la fièvre, si on peut dire, et la crise, qui est l'évacuation de l'humeur en excès. Et cette crise est un concept important parce que tout peut basculer et il y a des jours critiques où il peut y avoir des rechutes de cette crise. Quoi qu'il en soit, la thérapeutique hippocratique est palliative et humble, je dois dire, avec un pouvoir guérisseur de la nature. Le cœur comporte un pouvoir de rééquilibrer les humeurs et de guérir lui-même. Et on peut l'aider, ce processus naturel, avec du repos qui peut aller à une immobilisation, l'utilisation en bonne dose d'eau, de vin et de baumes apaisants. Et puis, pour le traitement des fractures, ce qu'on appelle le banc d'Hippocrate, qui consiste à étirer un membre, etc., etc. Alors, Si on essaie de survoler, survoler cette théorie, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des erreurs, des contradictions, et que tout cela reste en discussion. Malgré tout, un des mérites du corpus est le classement des symptômes, le classement sémiologique, qui avait été déjà répertorié, je dois le dire, dans les temples d'Asclépios, mais qui restait empirique et qui avait été classé par Hippocrate. Alors, première étape, les symptômes. La fièvre, les troubles respiratoires, les troubles digestifs, etc. La douleur, dont on parle avec beaucoup de détails. Algos, la névralgie, d'une, la coccycodynie, la pathologie, pain. Axos, les maux de tête. Ensuite, pandémon, la douleur morale. Kédos, le souci, la souffrance qui dure, etc., etc., la torture. À côté des symptômes, les signes. Alors là, on garde beaucoup de choses d'Hippocrate. La face, en français, livide, c'est un signe important. La posture, avec des mouvements involontaires chez certains patients. Le rythme et la chaleur de la respiration, les sueurs, la palpation du ventre, l'hippocampe, l'observation précise des crachats, des urines et des selles. Et on doit dire que les observations d'Hippocrate sont très précises et on voit décrites imparfaitement, mais enfin quand même bien, l'épilepsie, donc le mal sacré critique, avec un rejet d'explication, comme je vous l'ai dit, par des charlatans et des traitements magiques, la tuberculose pulmonaire, dont on sait maintenant, dont Hippocrate savait ausculter les rares, les frottements, les bruits de cuir, et cette auscultation ne réapparaîtra qu'au XIXe siècle avec l'ANEC. Les polypes qui se trouvent dans le nez, polypes venant de poulpe, ça ressemble à de petits poulpes, les doigts hippocratiques, c'est une expression qui tient de notre temps, les doigts hippocratiques, ce sont des doigts qui sont, dit-on, en baguette de tambour, ou en verre de montre avec des ongles très particuliers, dont on décrit actuellement des maladies bien connues et hippocratiques, donc, qui sont, j'épargne les noms scientifiques, l'ostéoarthropathie hypertrophique, qui révèle quelquefois les cancers du poumon, et la pachydermopériostose, qui est une maladie de l'enfant, une maladie génétique. Et on décrit également des maladies particulières, infectieuses, etc. Et on sait traiter ce qu'on appelle les manies, c'est-à-dire les états d'excitation chez des manades, l'évolution de ce qu'on appelle une psychose maniaco-dépressive. Ce sont des patients qui sont tantôt maniaques, qui cassent tout, qui crient, etc., etc., et qui passent en dépression. Eh bien, on sait déjà les traiter avec une fièvre élevée qu'on a utilisée par la suite avec ce qu'on appelait la malaria-thérapie, les accès paludéens. Alors, troisième étape qui commence à être difficile pour Hippocrate, eh bien, c'est l'interprétation. Ça mène tellement loin que je n'en parlerai pas. Et j'insisterai plutôt sur l'évolution, c'est-à-dire la marche des maladies, des maladies infectieuses en particulier, dont on sait qu'elles évoluent avec une incubation, des crises décisives, la coction des humeurs, des rechutes également, avec des dépôts fixés qu'on appelle les abcès, avec toute une série d'évolutions qui séparent les maladies curables et les maladies incurables. Le pronostic, c'est-à-dire le savoir comment va évoluer la maladie, est d'une grande importance. Il n'y a pas de diplôme de compétence, chacun peut se dire médecin. C'est donc un défi pour le médecin, il faut prouver sa compétence et ne pas se tromper pour l'évolution, prévoir l'évolution qui va susciter la confiance du public. Le médecin soit augmente, fortifie son autorité, soit ruine son crédit selon le pronostic qu'il a porté en disant ça va guérir ou ça va mourir. Alors donc, tout ça est une certaine valeur thérapeutique, mais surtout est une sorte de contrat avec le patient, parce qu'il y a une grande concurrence, surtout dans les villes, et il faut effectivement savoir persuader le malade avec une dialectique, une parole qui va le conquérir et lui permettre d'être un fidèle patient par la suite. Malgré tout, le médecin est animé par un souci d'efficacité, sauf que il ne semble pas exister chez Hippocrate un devoir d'accompagnement chez les malades incurables, avec ce qui relève, considère-t-il, de l'imposture ou de le charlatanisme, donc certains accompagnements. Et il est opposé à ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Vous connaissez tous le serment d'Hippocrate, avec cette très belle phrase, « Entrez dans les maisons, mais mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, etc. etc. » Et reste alors l'épidémiologie, c'est-à-dire l'hygiène et la thérapeutique. Il y a déjà des tentatives épidémiologiques l'expérience d'Hippocrate, en particulier concernant l'environnement. Évidemment, le climat façonne l'homme, le froid pour les pleurésies, le changement de saison réveille, dit-il, l'intelligence, etc., etc. Le sol, également, après dur, eh bien, il aboutit à une constitution un peu nerveuse, au contraire, humide, il affaiblit, etc., etc. Et la diététique également, la diététique grecque est toujours connue comme être le régime méditerranéen, être frugal, mais elle aboutit à des principes simples du temps d'Hippocrate. La digestion est une cuisson des aliments, pourquoi pas. Les aliments cuits facilitent la digestion. Les humeurs déterminent un tempérament et la nourriture équilibrée correspond au tempérament, je n'entrerai pas dans les détails. Deux exemples, les viandes rouges, les aliments chauds sont utiles chez les sujets âgés et les mélancoliques, qui sont des personnes froides. Le poisson frais, les fruits et les légumes pour les coléreux, les sanguins, les jeunes, etc. Puis selon les saisons, l'hiver, le printemps, ce sont des évidences sur l'alimentation. Néanmoins, le médecin est tenu d'avoir un professionnalisme sérieux, une rigueur et une honnêteté, un calme dans l'exercice de ses fonctions, être compréhensif avec ses malades et toujours convenable dans sa présentation. Il doit noter les symptômes pour aider ses confrères à résoudre des difficultés. L'hygiène n'est pas méconnue, et en particulier IGA, fille d'Asclépios, est à l'origine de bains, d'exercices, d'imbrocations. Et puis, bien entendu, il y a des thérapeutiques comme la saignée, mais peu de médicaments, comme le tisané, c'est-à-dire le grain d'orge qui va devenir la tisane, les feuilles, les baies, les racines, le traitement de la gastralgie par les lébores, des ulcères par le fer, le plomb, la faiblesse par le régime, etc., etc. Et puis la chirurgie d'officine également, qui est entretenue dans la cité avec des soins gratuits aux indigents, des salles d'opération bien éclairées, des bistouris très divers qu'on peut voir dans des musées, de bronze, de fer, de cuivre, d'étain, des trépans également, des ciseaux, des sondes, des canules, etc. Et des instruments de réduction, les bandes d'Hippocrate pour les luxations. On sait également faire une ponction pleurale, une thoracocentèse pour une pleurésie, avec une recommandation avant le 15e jour. Il peut s'agir d'une pneumopathie simple, il ne faut pas ponctionner. Alors au total, doit-on être pour ou contre Hippocrate? soit contre, soit pour. Contre, je vous l'ai dit, trop médiatique, grands honneurs, couronne d'or, initiation au mystère d'Éleusis, etc., etc. Et surtout des critiques et des rivalités. Critique des contemporains, Ctésias, qui était par ailleurs son cousin, critique la réduction de la hanche en dedans, c'est une manœuvre thérapeutique. Hérophile critique le pronostic. Dioclès, mauvaise classification des fièvres, et surtout rivalité avec les codes de CNID dont je vous ai déjà parlé. CNID était axé sa pratique sur le diagnostic, mais le diagnostic était un peu erroné. Et au centre médical, dans ce centre médical, Galien rivalisait avec Cos. Il y avait une littérature médicale qui s'appelait les sentences cnidiennes, à l'origine d'une polémique avec Hippocrate qu'on accusait d'avoir brûlé la bibliothèque de CNID, mais je ne peux pas vous dire que si c'est une jalousie ou autre chose. Un autre exemple, c'était avec les méthodes d'études, avec la guérison du roi de Macédoine. Euryphore de CNID le soigne par révulsion, échec total. Hippocrate l'interroge et le guérit par sa psychothérapie personnelle. Et Perdiccas le comble d'honneur et lui supplie de rester à la cour. En conclusion, je crois qu'il y a beaucoup d'arguments pour Hippocrate. D'abord, il a été un précurseur dans plusieurs domaines avec une étonnante modernité intellectuelle. Il a créé la déontologie qui va être maintenant la morale médicale, le serment d'Hippocrate, nous allons en parler, la loi, comment doit se comporter le médecin, bien séant, simple, savoir cacher aux malades, refuser une vaine gloire pour des procédés spectaculaires, ne pas hésiter à appeler des confrères en consultation, règles naissance sur l'art de la médecine, le recrutement, les compétences du médecin, et une pensée pluridisciplinaire. Tout doit participer à l'exercice d'une bonne médecine. Et donc, pour Hippocrate, à son époque, eh bien, il a eu beaucoup de courage et de modernité intellectuelle, comme je viens de le dire, et on s'aperçoit au XXIe siècle qu'il a été original et précurseur, et qu'on peut dire en termes actuels qu'il a créé une méthode précise de sémiologie, primauté de la clinique, un raisonnement scientifique basé sur les faits, recherche médicale, un souci d'honnêteté et de désintéressement, éthique médicale, une conception de l'homme dans l'univers, santé et environnement. J'y ajouterai la crainte de l'inexpérience, mère de la timidité qui révèle l'incapacité et de la témérité à l'opposé qui révèle l'ignorance. C'est donc l'art médical à savoir, à la fois savoir et finesse. Et ainsi, 5 siècles avant Jésus-Christ, Hippocrate a su dégager la médecine des ténèbres de l'opaque. Pour terminer, quel a été l'héritage des Grecs à Marseille? Eh bien, 600 ans avant Jésus-Christ, les navigateurs de Phocée, riche cité grecque d'Asie mineure, fondant Massalia sur la rive abritée de la calanque du Lacidon, apportent aux barbares, entre guillemets, tous les éléments de la civilisation, la démocratie, la construction, la fortification, l'agriculture, la vigne et l'olivier et l'art de vivre. Mais le plus beau fleuron a été en fait l'école de médecine la plus célèbre, l'école de médecine de Marseille, de Massilia, la plus célèbre avec celle d'Athènes, de Saragosse et d'Alexandrie. Relais des écoles grecques des siècles précédents, et les médecins ont hérité de leur observation, de leur recherche, et ont mis en pratique leur art de guérir, mais sans originalité véritable. Le déclin s'est fait après la bataille d'Actium, 31 ans avant Jésus-Christ, sous la domination romaine, mais a brillé de nouveau dans les siècles suivants. Les médecins massaliotes avaient des connaissances qu'ils tiraient des grandes écoles de Kos et d'Alexandrie, avec en particulier Hérophile et Erasistrate, dont je vous ai parlé. Ils appliquent, je dois dire, sans grande originalité, les préceptes précédents, mais ils sont des praticiens, je dirais, d'esprit provençal, avec un esprit critique très développé et tout à fait remarquable dans leur pratique, avec une grande finesse du diagnostic, qui sont appelés par en Gaule, mais également à Rome. Ils exercent dans un iatreum, c'est-à-dire un cabinet de consultation, avec une sorte de dispensaire, où ils vendent eux-mêmes leurs médicaments, c'est-à-dire la thériaque, une mixture dont l'origine remontait au temple d'Esculape, à Évidor, avec 60 substances, dit-on, la chair de vipère, du sang de canard, la térébenthine, des extraits de pavot et d'opium, et ceci permet de soulager un certain nombre de malades. À Massalia, d'ailleurs, on a intégré des plantes exotiques venues d'Afrique, depuis les voyages de Timène, du thym, du romarin, et même la ciguë, comme en Grèce. Selon la loi massaliote, il existait un droit de se suicider, après demande devant les autorités de la ville qui fournissaient gratuitement de la ciguë à ceux qui voulaient l'utiliser. Enfin, si actuellement on recommande la connaissance de l'anglais, Pline l'Ancien, Pline l'Ancien au 1er siècle après Jésus-Christ, écrit « Ceux qui pratiquent la médecine sans parler le grec n'ont point d'autorité, même auprès de ceux pour qui cette langue est inconnue ou peu familière. » Et c'est donc cette importance, d'ailleurs, je dois dire, pour ceux qui ont eu une très faible culture en grec pendant les études secondaires, ça sert énormément dans le langage médical, parce qu'il y a énormément de termes médicaux qui sont d'origine grecque plus que latine. Pour conclure, eh bien, dans ce premier siècle, il y a eu trois grands médecins à Marseille, Crinas, qui connaissait donc les principes de Kos et d'Alexandrie, qui descendait de la famille de Pythéas, et qui était, comme on sait, grand navigateur et astronome, et qui, sinon, en cas de difficulté, consultait les astres. Il utilisait beaucoup aussi une grande hygiène, les eaux thermales et l'exercice physique. Charmis était gynécologue et pratiquait l'hydrothérapie. Et Démosthène, Philalète le Matalios, je dois dire, savait traiter déjà la cataracte, ce qui était quand même un grand succès en ophtalmologie. Et comme Antilis, d'ailleurs, d'Alexandrie, dont il avait appris cette technique, il pratiquait une véritable extraction du cristallin. Donc, dans ce petit exposé, j'ai essayé de vous montrer comment la pensée médicale avait évolué de façon saisissante à travers les siècles, avec, d'une part, la grande influence d'Hippocrate, qui avait su séparer tout ce qui était sacré, charlatanesque, de ce qui était vraiment, disons, de la pathologie organique, et puis de la formation qu'il a eue sur les médecins à tous les points de vue, y compris la morale médicale. Et pour terminer sur un terme marseillais, eh bien, il semble que nos ancêtres médecins étudiés le grec et par les Grecs ont tenu un flambeau extraordinaire dans le bassin méditerranéen, mais également dans toute la Gaule et peut-être même dans l'Europe, grâce à leur savoir et grâce à leur finesse et leur intelligence.
Bravo. Professeur Serratrice, merci de ce panorama qui nous fait plonger beaucoup plus précisément dans tout ce monde qui continue à faire parler de lui. Il y a actuellement d'ailleurs dans le cadre du programme du musée d'histoire, du nouveau musée d'histoire, une partie pour la médecine et une partie aussi pour parler de l'apport de toute cette période. Alors, qui veut prendre la parole?
Si je peux, il répond.
J'aimerais poser une question. Parce que finalement, c'est vrai que le siège de la pensée dans le cerveau, ça nous paraît tellement évident, mais à une époque, ça ne l'était pas du tout.
Et je vais vous dire
quels
mieux.
Quels arguments avait-il pour le déduire?
D'abord, vous avez parfaitement raison. D'abord, ça a été un progrès extraordinaire de penser que le cerveau, que c'était basé un peu quand même sur certaines expériences, la sensibilité. Pour répondre précisément à votre question, c'est-à-dire le cerveau et la pensée, eh bien, c'est une question qui n'est pas résolue à l'heure actuelle, aussi curieux que ça paraisse, n'est-ce pas? Parce que la pensée, enfin le cerveau est le siège de l'âme. Moi je vois bien, mais qu'est-ce que c'est que l'âme? Est-ce que vous me la localisez? Évidemment, si on détruit peut-être tout le cerveau, ou peut-être qu'on bat, ils ont des expériences un peu plus récentes d'imagerie cérébrale, mais je ne crois pas qu'on puisse maîtriser de cette façon l'âme et le cerveau et la pensée. Le cerveau, c'est un organe très bien constitué, qui règle toutes les fonctions du corps, toutes les fonctions cognitives. D'ailleurs, ce qu'on appelle les fonctions cognitives sont les fonctions supérieures du cerveau, c'est-à-dire la mémoire, l'attention, tout ce que vous voulez, etc. Mais ça n'est pas la pensée à proprement parler. Et la pensée, eh bien, il faut toujours vraiment la chercher. Et la pensée des philosophes est différente de la pensée vue par les neurologues, par les expérimentateurs. C'est un grand problème.
Merci. Alors, d'autres questions?
Le disciple, ça serait peut-être Hahnemann, pas le fondateur de l'homéopathie aussi. Parce que, je ne sais pas, il y a l'histoire du terrain, c'est très important.
Oui, si vous voulez, il y a certaines études d'Hippocrate qui touchent à l'homéopathie, sans en parler vraiment avec détail. Avec toutes là encore les questions que. Pardon ?
Le traitement du mal par le mal.
Oui, ça aussi. C'est un...
Ça, c'est du domaine de l'homéopathie.
C'est un autre aspect.
Oui.
D'autres questions ?
Non, je vais trop parler.
Non. Oui, madame. Ah, oui.
Vous avez parlé de la possibilité d'avoir de la ciguë.
Oui.
Donc il semblerait que, c'était le courant que les gens ne pouvaient se suicider à la ciguë.
Mais il semblerait que, comme je l'ai dit, à Marseille, à l'époque, ça remonte quand même à peu près à Jésus-Christ, si on souhaitait se suicider, ben on vous aidait à se suicider, d'accord. C'est-à-dire on vous fournissait la ciguë.
Ok. Et donc, est-ce qu'au niveau de l'euthanasie, il y avait aussi, justement, une certaine idée déjà?
Je n'en sais rien, mais vraisemblablement, ça, c'était pour des cas comme ça. Oui.
Ça rejoint.
Oui. Mais vous savez, là encore, c'est un problème qui n'est pas résolu. Moi, je suis un peu inquiet par tout ce qu'on dit sur l'euthanasie. J'ai vu tellement de choses différentes. Et...
De patients. Oui.
Mais je crois que c'est très difficile de légiférer, mais par contre, je crois. Enfin, c'est tout à fait personnel ce que je dis, d'ailleurs, il ne faut pas le répéter, mais je crois que des malades qui souhaitent disparaître, il ne faut peut-être pas toujours les empêcher. Moi, j'ai vu tellement de choses extraordinaires du point de vue médical. De patients, je pense en particulier à un patient que j'ai suivi qui était porté un jeune type très très beau type, un grand sportif, qui était atteint de ce qu'on appelle la maladie de Charcot, c'est-à-dire une paralysie progressive du corps, de la moelle épinière, de la parole également. Et j'étais allé le voir, parce qu'il était dans la région nîmoise, en consultation, vers la fin de ses jours, parce qu'il tenait absolument à ce que je le vois. Et c'était un... Il était dans un état épouvantable, il communiquait avec sa femme par les yeux, c'est-à-dire A, B, C, D, D, A, 2, etc. Vous voyez comment. Eh bien, que vous le croyez ou non, ce garçon avait un besoin de vie extraordinaire, et il avait une histoire sentimentale avec son infirmière, et il ne pensait qu'à ça. Le pauvre garçon, on le sortait au soleil, il devenait rouge, il attrapait les coups de soleil, etc. On le rentrait le soir, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien dire, etc. Mais il était animé d'un sentiment profond de vouloir vivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Je ne sais pas.
Merci. D'autres questions?
Mais c'était sur le suicide. Parce que si la société grecque rejetait dans certains
cas... Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. La bibliothèque ferme ses portes dans 30 minutes. Les personnes ayant des documents à faire enregistrer sont priées de se présenter au poste de prêt. Merci.
Les philosophes, en tout cas certains d'entre eux, ne le rejetaient pas. Et pour répondre à la question de la dame, c'était une forme d'auto-euthanasie. Et par exemple, on pouvait pratiquer Épicure. C'était devant le triste double attelage de la vieillesse et de la maladie. Ils considéraient qu'étant philosophes, ils étaient libres de choisir quand est-ce qu'ils pouvaient sortir de la vie.
Mais Socrate, vous devez le savoir mieux que moi aussi, non?
Là, ça fait un débat un peu long, oui. Mais c'est vrai qu'il y a deux ou trois phrases de Socrate qui semblent dire qu'il est inquiet, parce qu'avec la vieillesse, il pourrait perdre ses capacités intellectuelles. Donc peut-être la condamnation à Athènes pouvait peut-être l'arranger, à sortir d'une manière élégante de la vie. Mais ça reste discuté, il y a des travaux qui ont été faits par des Américains sur le sujet.
Oui, mais c'est pour ça que ces cas, c'est très difficile, je crois, et c'est, on veut légiférer là-dessus, mais c'est ce garçon dont on a beaucoup parlé à la télévision, qui avait d'ailleurs la même maladie que mon malade. Il avait une maladie de Charcot. Eh bien, il a voulu mourir, mais je le comprends très bien, me mettant à sa place, être totalement immobilisé, incapable de parler, incapable de rien. Ça fait partie des maladies les plus terribles. C'est comme ces accidents postérieurs du cerveau, où les gens ne communiquent que par les paupières, mais il faut mourir, peut-être en l'air, mais c'est... Pardon ?
L'autre monsieur rêvait de l'infirmière, il...
Ah ben oui, c'est pour ça que je vous dis, ce sont des cas particuliers. Mais je comprends très bien le jeune homme qui voulait disparaître.
Mais peut-être que les Grecs de cette époque étaient plus libres, parce qu'en fait, il n'y avait pas encore les interdits judéo-chrétiens qui vont arriver. Peut-être qu'on parle d'avant, j'ai fait...
Oui,
c'est les interdits.
Oui. L'euthanasie, le suicide. Hein. Et après, l'interdit est arrivé, on a mis la charte par rapport au Christ, au judéo-chrétien,
il
est arrivé, non?
Oui, je pense comme vous. C'est sûr.
Y a-t-il encore des questions? Non, s'il n'y a plus de questions, on remercie encore une fois le professeur Serratris et merci à vous d'être là.
C'est un peu aride. Donc, moi, je suis dans les délais. Bon.